Dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
11h04, on est de retour dans le forum Marinaro avec Éric Auziel, collaborateur tous les jeudis, Alex Lanto à la mise en onde, et tous les mardis et tous les jeudis dans notre segment Habs Radio. Denis Gauthier, comment ça va, Denis?
Bonjour Tony, ça va très bien, merci. Salut Éric, salut tout le monde.
Salut Denis.
Denis, je sais que les coachs, ils aiment pas ça entendre parler de fatigue. Mais toi qui as coaché, puis toi qui as joué, on connaît aussi la réalité, c'est que la fatigue existe. Est-ce que t'es prêt à excuser la défaite d'hier soir à cause de la fatigue du Canadien? Dimanche après-midi à 4h de l'Est, Anaheim. Mardi soir, 22h30 de l'Est à San Jose. Hier soir, c'était le genre de match qu'on regardait le calendrier, Denis, puis on disait déjà, c'est un match perdu. Donc, est-ce qu'on doit être moins dans nos critiques aujourd'hui ou pour toi, la fatigue n'est pas une excuse?
Ben, moi, la fatigue n'est jamais une excuse, mais ça peut nécessairement être un facteur. T'sais, mais la Ligue nationale étant ce que t'es, tu dois gérer avec l'adversité tout le temps, avec la fatigue, les blessures, toutes sortes de choses, puis tu dois trouver des façons de te préparer pour jouer chacun des matchs. Donc, pour moi, tu sais, je comprends très bien le calendrier éreintant du Canadien. On a voyagé, c'est 3 matchs en 4 jours. Le fait qu'on a joué à San Jose entre les deux, pour avoir joué à Los Angeles, le vol Los Angeles ou Anaheim à San Jose, c'est à peine 1 heure. C'est rien de dramatique. Là. C'est pas pire que de jouer dans l'Est puis de jouer de partir de Montréal à New York ou à Boston. Fait que ça, c'est pas l'excuse qui pour moi est nécessairement valable. Mais le Canadien a joué beaucoup de matchs depuis Noël. Puis il a joué beaucoup de matchs émotifs. On a joué en venant du congé de Noël beaucoup de matchs où on s'est surpassé, on a joué au-dessus de notre tête, des matchs où on sentait qu'il y avait une énergie, puis qu'on se battait pour quelque chose, on donnait le maximum, puis on s'est surpassé, puis on s'est remis dans une position, dans une course au séries éliminatoires pour rentrer en série, être dans le mix, puis finalement on s'est essoufflé. On a eu la blessure de Goulet, mais il y a un facteur où à un moment donné, tu peux pas soutenir ce rythme-là d'intensité autant. T'sais, d'engagement physique que psychologique, que mental dans chacun des matchs, quand t'es pas outillé pour le faire. Le Canadien, la réalité, c'est qu'on est pas mal où on est comme équipe. T'sais, parce qu'on est une équipe qui est jeune, qui est en reconstruction, qui manque de profondeur, qui a des trous dans certaines positions, puis qu'il y a des joueurs dans des positions clés qui ne répondent pas nécessairement aux attentes. Fait que ça fait en sorte que ça devient un peu démoralisant, ça devient un peu plus difficile de gagner des matchs, puis d'être compétitif contre chacune des équipes à tous les soirs. Un moment venu, une semaine, une petite période de quelques matchs, ça va, mais soutenir ça, ça devient très difficile. Donc pour moi, nécessairement, la fatigue, je peux pas voir qu'on est plus fatigué qu'une autre équipe présentement dans le national. Tout le monde vit la même chose, ou à peu près.
Denis, évidemment, le match a très mal commencé pour le Canadien hier, qui sont fait déborder dans les premières 100 secondes du match, puis Gavrikov qui marque le but. Puis on va retourner à ça, mais pour moi, un des buts à qui je parle, le but de 3-1, là, après 15 secondes en troisième période, a fait extrêmement mal. Puis je regarde encore une fois la paresse et la nonchalance et le manque d'effort de Kirby Doc. C'est de quoi à faire rager un entraîneur. Là. C'est, écoute, moi, je m'excuse, là, c'est pas acceptable.
Je comprends très bien. Il y a des moments dans des matchs, dans tes replis défensifs, puis il y a Kirby Doc qui a eu un autre but, parce qu'il s'est fait soutirer la rondelle le long de la rampe. La rondelle était rimée, là, était allongée le long de la rampe, puis il a arrêté avec le patin, puis ça l'a fait soutirer assez facilement, que ça a donné le but de Clark, je ne me trompe pas. C'était le deuxième but, mais par la suite, tu sais, je suis d'accord avec toi. Le niveau d'engagement, la prise de décision, tu sais, pour moi, dans le cas de Kirby Doc, quand Hartson s'est fait frapper à la ligne bleue, il était le troisième homo qui était supposé être la valve de sécurité, je vais le dire de même, là, dans cette position, quand t'es F3 en zone offensive, puis en termes anglais, il a dive-in, donc il s'est projeté vers l'avant pour terminer le manéjec, donc il s'est sorti lui-même de la situation défensive, de la valve de sécurité, fait qu'il est en retard pour le répit défensif, et par la suite, il se laisse glisser, tu sais, prend de mauvaise lecture, prend pas le joueur qui est supposé prendre. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que là, c'est de l'accumulation. C'est sûr qu'on s'acharne beaucoup sur lui parce qu'il nous donne des raisons parfois de s'acharner par ses mauvaises lectures, mauvaises décisions, mauvaises performances. Puis, tu sais, les réponses qu'on cherchait, mais c'est simple. Il est en train de nous les donner. Est-ce que Kirby Dach est un joueur de deuxième centre dans la Ligue nationale ou pour le Canadien de Montréal à long terme? La réponse, pour moi, elle devient de plus en plus claire, c'est non. Ça veut-tu dire qu'il peut pas être un ailier de deuxième trio, peut pas être un ailier de troisième trio que les Canadiens? On verra. Mais pour l'instant, ça force Kent Hughes à se mettre à la recherche de joueurs pour penser au futur de remplacer cette position-là, parce que le Canadien ne sera jamais une équipe qui va prétendre être parmi les meilleurs si on n'est pas capable d'avoir deux centres sur les deux premiers trios qui font le travail.
Il y a deux semaines, Denis t'a dit à Tony, l'équipe allait mieux, ça serait bien, ouais, sans changer le plan, d'essayer de donner des matchs significatifs à l'équipe au mois de mars. Tu comprends? Ouais. Pour que ces jeunes-là continuent à apprendre. Parce que c'est quand même la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Est-ce que c'est encore ce que tu penses, que Kent Hughes, à la date limite des transactions, doit essayer de faire en sorte que l'équipe, elle sera peut-être pas dans les séries, mais elle soit pas trop loin pour leur donner des matchs significatifs sans changer de plan? Est-ce que tu y penses encore de la même façon?
Ben, mon plan ne change pas. Si je fais une transaction aujourd'hui ou d'ici le prochain mois, la date limite des transactions, moi, je fais pas de transaction pour aider l'équipe à court terme. T'sais, on est trop loin. Il y a pas, t'sais, à moins d'aller chercher un Sidney Crosby de ce monde pour dire qu'il va vraiment changer l'identité de notre équipe et il va nous gagner des matchs à l'occasion à lui-même. Il n'y a pas personne qui va arriver, un joueur qui va remplir un des trous qu'on a chez le Canadien puis changer tout ce qui se passe présentement. La réalité, c'est qu'on est en train de s'éloigner de la place en sixématoire. Les Rangers de New York nous ont maintenant dépassés. C'est une équipe de plus qu'on devra surpasser pour se rendre au moins au huitième rang dans les séries. Donc, tu sais, moi, je suis plus de l'optique que si je suis capable de faire une transaction, aller chercher un autre jeune qui va remplir les trous à moyen et à long terme chez le Canadien, qui va, puis pas juste remplir des trous importants. Tu sais, moi, c'est correct si on peut chercher des jeunes joueurs de profondeur, tout ça, mais ça, je pense qu'on est en masse. Tu sais, moi, j'aimerais être capable de cibler un joueur de top 6. En fait, c'est deux joueurs top 6, parce qu'à mes yeux, tu sais, notre deuxième trio, présentement, il y a personne qui fait le travail. Nook, pour moi, n'est pas un joueur de deuxième trio, c'est un gars qui mérite d'être là, mais sur un troisième trio à l'aile. Doc, pour moi, c'est pas un joueur de deuxième centre, puis Laine fait pas le travail. Fait que, tu sais, j'ai personne présentement sur mon deuxième duo. Fait que si je suis capable d'aller chercher un ou deux joueurs, tu sais, peu importe, dans le top 6 qui va nous amener, qui va être complémenté un gars comme Demidoff l'année prochaine, parce que là, tu sais, faut le compter, il va être là, puis il va être important, je pense, l'année prochaine. Ça sera peut-être pas notre numéro un, mais il va le devenir rapidement. Mais il va falloir déjà l'entourer puis donner quelqu'un qui est capable de lui distribuer une rondelle. Fait que si on est, là, il y a Cousins, là, les rumeurs qui circulent présentement. T'sais, est-ce qu'il y a d'autres joueurs dans la Ligue nationale que Kent Hughes et son équipe ont ciblé pour être capable de combler ce trou-là? Si Zegras a été un nom mentionné plus tôt cette année, moi, je suis pas un grand fan. Middlestad, tu sais, il y a des noms comme je lisais un article de Marco D'Amico qui suggérait quelques noms qui étaient peut-être disponibles, mais tu sais, ça c'est un trou qui est quand même très bien chez le Canadien présentement qu'il faut combler. Puis l'autre chose, c'est tu sais, on a beaucoup de bons défenseurs, mais on n'a pas vraiment de vrai numéro un, je pense. Tu sais, il y en a-tu quelque part dans la ligue que t'es peut-être capable de cibler des équipes qui, tu sais, Buffalo est une équipe qui, tu sais, il y a Powers qui est là, qui bougeront pas. Bowen Byram est peut-être une option. Si t'es capable de changer, d'échanger des joueurs, tu sais, de haut niveau, qu'on est capable de céder, peut-être ça peut être une option. Tu sais, il y a des choses comme ça que Marco D'Amico parlait puis qui faisait beaucoup de sens à mes yeux dans les choix de joueurs. Mais pour moi, il y a trop de trous présentement pour dire qu'on va aider le Canadien à court terme pour rentrer en série. Tu sais, on veut faire de quoi de raisonnable.
Ouais.
On va aider le Canadien à quand même 5 points de la 8e place présentement, mais tu sais, Tampa Bay a deux matchs en main, malgré ses 5 points. Ça pourrait potentiellement être 9. Donc, la pente est énorme à surmonter présentement.
Denis, Martin Saint-Louis donne juste une présence de 32 secondes à Patrick Laine en troisième période, dimanche après-midi. Match épouvantable pour lui. À la fin du match, on pose la question à Martin. Il dit, écoute, je pense pas qu'il pouvait aider je pensais qu'il pouvait pas aider l'équipe. Point de la ligne. Bon. Patrick Laine, il admet que c'était pas un bon match, qu'il y a un problème avec sa confiance en ce moment, mais il va falloir travailler fort, il va falloir rebondir. On change les trios. C'était correct, c'était meilleur, c'était mieux mardi, mais encore une fois, tu sais, il était pas dangereux offensivement, là, tu sais.
Mm-hmm.
Hier soir, là, my God, c'était épouvantable.
Ouais.
Patrick Laine, c'était épouvantable.
C'est difficile à comprendre, Tony. Puis, tu sais, il y a une partie ce gars-là, là, c'est un château de cartes là, qu'on est en train de remonter. Là. Ce gars-là, il avait un swag plus jeune dans sa carrière.
Ouais.
Ce que j'entends, moi, c'est quand il est arrivé à Winnipeg, avait une certaine confiance, il allait bien, c'est un gars qui recevait bien les défis, qui voulait faire défier puis qui performait quand même bien. Il venait avec ses qualités, fallait vivre avec certains de ses défauts, mais ses défauts sont beaucoup plus flagrants aujourd'hui. T'sais, château de cartes a été démoli à Winnipeg. T'sais, ce que j'entends, moi, il y a eu beaucoup de... Il y a eu une question avec le c'est-à-dire des confrontations, mais il y a certains des leaders là-bas. Puis, tu sais, on a parlé du leadership à Winnipeg il y a quelques années. Là, tu te souviens, Rick Bowness avait parlé, il avait changé le capitaine, puis il y avait toutes sortes d'histoires avec le leadership qui faisait défaut là-bas.
Ouais.
On l'a pas mal démoli, Patrick Laine, là-bas. Tu sais, il a perdu le swagger qu'il a déjà eu, il a perdu toute la confiance qu'il a déjà eu, puis... T'sais, ça l'a amené les déboires puis les problèmes qui en ont suivi. Puis on vit avec ça encore aujourd'hui. T'sais, maintenant, est-ce qu'il prend les moyens pour se remettre sur la bonne piste? Il semble que oui, mais t'sais, c'est une carte à la fois présentement. Là. Puis c'est difficile, puis là, il est dans un creux de vague, puis ses performances laissent beaucoup à désirer, surtout avec le niveau de jeu qu'il nous a donné au début. Sa production offensive a fait en sorte qu'on oubliait tous les défauts qu'il avait, mais il jouait avec plus d'enthousiasme. Là, présentement, c'est un gars qui est perdu, qui cherche, ouais. Il semble avoir aucune idée qu'est-ce qu'il fait et où il est sur la patinoire.
Puis les gars, on savait déjà qu'avec Patrick Laine, il fallait prendre le bon avec le mauvais. Puis, tu sais, il n'était pas un joueur parfait parce que sinon, il n'aurait pas été sur sa troisième équipe après avoir été dépêché deuxième. Puis ça a mal fini à Winnipeg, ça a mal fini à Columbus. Puis là, on voit à Montréal qu'est-ce que les autres coachs ont vu de ça. Je comprends tout à fait ça, le bon avec le mauvais. Le problème, les gars, c'est que c'est une jeune équipe en reconstruction. Que tout le monde essaie d'incorporer, tu sais, une culture de travailleurs, une culture d'équipe, une culture de responsabilité. C'est pas le gars pour ça. Et là, t'as un jeune Demidov qui va venir l'année prochaine, que lui, certainement, là, tu sais, il s'y connaît, Laine, puis j'imagine qu'à un certain moment, il était en admiration de ce joueur-là, parce que c'est un gars qui a déjà marqué 40 buts. Lui, il va se voir, il va voir Laine se traîner les pattes. Là. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se dire, lui? C'est pas bon.
Moi, ma question pour Patrick Laine est la même pour certains athlètes dans différents sports, Denis et Tony, c'est pour réussir à ce niveau-là, tu dois avoir un amour inconditionnel pour ton sport puis tu dois être passionné. Quand j'entends certaines entrevues de Patrick Laine, c'est une hypothèse, tu peux pas connaître quelqu'un si tu n'as pas marché un kilomètre dans ses souliers. J'ai comme des fois l'impression qu'il n'est pas aussi passionné de hockey qu'on le voudrait. Puis il dit lui-même, là, j'ai pris une pause, c'est mon père qui m'amenait au hockey. J'ai comme l'impression qu'il...
Stéphane Richer était comme ça.
Oui, c'est ça. Puis Denis, t'as peut-être connu des gars comme ça. Moi, je pense que si t'as joué dans la Ligue nationale, c'est parce que t'avais une passion incroyable. Si t'avais pas eu cette passion-là, t'aurais peut-être pas joué.
J'en étais un. Puis pour vrai, je l'ai vécu, je l'ai fait, cette situation-là, à 31, 32 ans, quand j'ai pris ma carrière. T'sais, pour ceux qui se rappellent de la façon de jouer, j'étais pas le joueur le plus talentueux, mais j'étais un gars qui se donnait à tous les matchs. Que je joue bien ou que je joue pas bien, j'avais une façon de jouer, c'était la pédale au plancher. T'sais. Mais après 10 ans dans la nationale, vous avez vu mon histoire, j'ai joué une dizaine d'années, ou à 9 ou 10 ans, j'ai été renvoyé dans les mineurs à Philadelphie à cause d'un salary dump. Philadelphie était au-dessus de la masse salariale, il a fallu se libérer du salaire, m'envoyer des mineurs. J'ai été pris là une saison. Je suis revenu la saison d'après parce que j'ai été échangé le 1er juillet. J'ai terminé ma carrière à Los Angeles, mais ça n'a jamais été pareil. Moi, j'avais toujours le sentiment que j'étais un joueur qui faisait partie de la famille. Le hockey, c'est une famille. On se tient, on se bat un pour l'autre, tout ça. Puis pour la première fois, j'étais devenu un employé, un numéro. Puis ça, ça m'a fait découvrir à 31, 32 ans. Le côté business du hockey. Pour moi, je m'amusais. Jusqu'à là, jusqu'à 30 ans, là, moi, j'étais un jeune dans un magasin de bonbons. Là. Moi, je tripais, j'étais passionné, je me donnais, j'aimais ça. Puis on dirait que le côté business est venu vraiment, vraiment me couper l'herbe en dessous des pieds. Puis vraiment, j'ai perdu cette passion-là. Puis j'ai pris ma retraite après mon année à Los Angeles. Puis j'ai eu des offres de contrat pour poursuivre. J'ai dit non, j'étais plus là. Ma femme a dit, mais au moins, on va aller jouer en Europe, vivre l'expérience. Elle a dit non. J'ai dit, moi, je suis prêt à aller visiter l'Europe, je veux plus jouer au hockey. Philadelphie m'a tué complètement. Mais j'ai vécu ça au niveau émotif. Tu parles d'un gars passionné, puis d'un gars pour l'amour de ton sport. Mais c'est ça, tu sais, Patrick Laine, peut-être qu'il vit ça présentement, ou peut-être qu'il est dans un creux de vague, faut qu'il trouve cet enthousiasme-là, mais quand tu vois la montagne, qui t'es au pied de la montagne, puis tu regardes, puis elle est tellement haute, puis t'es à bout de souffle avant de partir, là, ça devient peut-être une... la montagne devient tellement plus haute. Fait que, on lui donne un peu de temps pour lui personnellement, pour se ressaisir pour sa propre carrière. Mais tu sais, c'est pas un gars que je crois que Hughes, Gorton regarde, puis Martin Saint-Louis, quand ils ont des discussions, disent lui, il va faire partie de notre noyau. Après les deux ans qu'il va finir ici, là, lui, c'est pas un joueur pour moi qui va faire partie du Canadien de Montréal. Laisser en valait la peine, on s'est fait payer pour le prendre. Un choix de deux. Puis ça, tu sais, pour pouvoir accepter son contrat, pour que Canada s'en débarrasse. Ça valait la peine de l'essayer, mais quand ça sera fini, je pense qu'on se dit, bon, on l'a fait, on l'a vu, on l'a essayé, passons à d'autres choses.
Mario s'est fait surprendre peut-être par la vitesse de Fogel. C'est un tir de punition que ça a été ou ça n'a pas été. Peut-être l'arbitre a été un peu généreux là-dessus. En tout cas, c'est un but des Kings. Ensuite, plus tard dans le match est déjà perdu. Par contre, il marque d'un tir du poignet vif. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Parce que la dernière fois qu'il était avec le Canadien, moi, je me suis dit... Ses lectures de jeu sont pas encore au niveau de la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu as vu de ses lectures hier soir?
Ben, c'était mieux. C'était définitivement mieux que ce qu'on a vu au début de saison. T'sais, j'ai trouvé qu'il était quand même assez stable. Il a pas été utilisé à outrance, mais c'est quoi? C'est une douzaine, treizaine de minutes, si je ne me trompe pas. Puis dans les circonstances, j'ai trouvé qu'il a bien fait. Il avait pas l'air d'un gars qui était perdu. Il avait pas l'air d'un gars qui manquait de confiance. Puis c'est une équipe qui. Los Angeles a affiché ses couleurs très, très rapidement. En début de match, aurait pu être intimidé, aurait pu être un peu plus sur les talons le reste du match, puis impressionné par la vitesse auquel les Kings jouaient hier. Mais j'ai quand même trouvé, dans les circonstances, qu'il a fait un bon travail. Puis, tu sais, son but, c'était parfait. Il avait beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Il l'a utilisé. C'était un bon jeu de New York d'amener la rondelle profondément dans le territoire, un bon turn-up, puis un delay, qu'on appelle... Puis il est rentré, il a pris le temps de viser. C'est impliqué physiquement aussi, trois mises en échec. Fait que tu sais, je pense que c'est une bonne première audition pour 2025 dans son cas. Là, j'ai encore des questions à savoir s'il est prêt à jouer à temps plein, mais j'ai quand même aimé son match d'hier et la stabilité qu'il a emmené.
Moi, j'ai aimé Hudson hier. Penses-tu que le duo Hudson-Carrier, on les a vus ensemble, penses-tu que c'est... Ah.
Moi, j'ai aimé Hudson aussi. Pour vrai, moins de 20 minutes, j'ai trouvé qu'il y avait c'était difficile, un peu plus difficile dernièrement parce que, tu sais, on parle qu'il a frappé le mur puis avec raison, là. Hier, en bas de 20 minutes, je trouvais qu'il était capable de garder son rythme plus élevé, moins fatigué. Fait que, tu sais, il faisait des jeux avec un peu plus de oomph, là, qu'on dit, là, depuis que peut-être qu'on a vu récemment. Défensivement, il n'a pas été intimidé, il n'a pas été impressionné, il a bien défendu avec son bâton, tout ça. Moi, le problème avec Hudson et Carrier, j'adore le fit. C'est de deux styles de jeu différents qui se complètent. Mon problème, c'est qu'à long terme, c'est deux petits gabarits sur le même plan.
Oui, ça, c'est vrai. Denis, voilà. Sans jeter la serviette, parce que le temps presse, sans jeter la serviette, là, est-ce qu'on peut s'entendre ici en studio puis avec toi que si jamais le Canadien perd les deux matchs en fin de semaine, ça va prendre peut-être un petit miracle? Là.
Fini. Non, oublions ça. L'effort a été honorable là, pendant que ça a duré en revenant des fêtes, mais si on parle des deux prochains matchs, pour moi, ça va être terminé. Puis ça va peut-être donner même l'occasion à Pittsburgh de gagner un ou deux matchs, s'il break puis de passer en avant. Peut-être Philadelphie aussi. J'ai pas vu regarder leur horaire, là, mais tu pourrais te retrouver à limite avant-dernier après ces deux prochains matchs-là si tu perds les deux autres.
Denis, bon Super Bowl, puis je pense que tu pars pour quelques jours la semaine prochaine, dont on va se parler la semaine après ça.
On se voit la semaine après. Prenez soin de vous autres, tout le monde. Merci, Eric, de rester encore.
Puis, toujours un plaisir. Ben oui, puis je suis resté parce que les cataractes ont battu tes voltigeurs vendredi passé.
Hey, ça, je voulais pas en parler aujourd'hui. Mais non, mais j'ai pas été capable d'en rendre.
J'ai pas le choix. Il fallait que j'en parle.
On t'apprécie beaucoup, Denis. Bye, merci. Bye-bye. Bonne vacances à toi.
Merci, les amis. Bye-bye.
OK. Canadiens, 55 points en 7e place de wild card. Les Rangers sont en avant. Un point de plus. Les Islanders sont avant du Canadien 2 points de plus. Les Jackets sont avant du Canadien 4 points de plus. Les Bruins sont avant du Canadien 5 points de plus. Et Tampa est dans le deuxième poste du Wild Card 5 points de plus. Détroit, première poste du Wild Card 6 points de plus. Et Détroit ont joué le même nombre de matchs que le Canadien, mais le Lightning ont deux matchs en main. Là.
Mais regarde,
le match contre le Lightning, c'est pas un match de 4 points, c'est un match de 8 points le dimanche.
Pour les équipes qui sont pas dans les équipes dans les séries, là.
Oui.
À part les Islanders et les Rangers, les autres ont à peu près la même fiche que le Canadien dans les 10 derniers matchs. Tout le monde est médiocre.
Oui.
Tout le monde est médiocre.